voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kénéen rencontre Bertrand Delanoë. Ce soir, Rodez.
Bertrand Delanoë, nous évoquions dans notre première conversation votre enfance à Bizerte, en Tunisie. Et nous sommes à présent en 1964, l'année de vos 14 ans, année où vous quittez la Tunisie pour la France et vous vous installez avec votre mère à Rodez. Vous êtes donc ruthénois et vous avez le sentiment d'être d'une certaine manière déclassé avec votre mère qui, séparée de votre père, doit recommencer à travailler comme infirmière de nuit, je crois.
Elle avait commencé déjà un peu à travailler en Tunisie comme infirmière libérale, mais c'était pour conquérir son indépendance financière justement vis-à-vis de son mari. Donc ça, elle avait déjà travaillé, mais c'est là, elle rentre, elle devient infirmière de nuit en plus, ce qui est une grande contrainte pour elle.
Et découvrant cet épisode de votre vie, j'ai pensé, peut-être toute proportion gardée, à Émile Zola, qui, enfant à Aix, perd son père et connaît des grandes difficultés avec sa mère et qui les conduit à s'installer à Paris et à se battre, à se bagarrer pour s'en sortir. Zola en a puisé, en a tiré une forme de ténacité très forte. Est-ce que vous avez tiré de ces années-là, de ces difficultés, un enseignement, une conviction ?
D'abord, c'est pas principalement la question sociale qui, pour moi, est une épreuve. C'est passer de Bizerte à Rodez. C'est-à-dire, Bizerte, c'est la joie de vivre, c'est une forme de facilité. Rodez, c'est un peu la montagne, c'est la ruralité, c'est la religion catholique très très présente et assez conformiste, et c'est l'incompréhension totale. J'ai 14 ans, j'ai beaucoup d'appétit, et je comprends pas. D'abord, je comprends pas ce que disent les Aveyronnais. Au début, je croyais qu'ils parlaient pas toi, moi. Ils ont un accent très fort. Dans la cour de récréation, on me traite de petit parisien. Je n'ai pas l'accent pied noir. On parlait, je vous l'avais dit, chez moi, c'était quand même un peu vieille France, hein, bien que ce soit en Tunisie. Et donc, on parlait comme on parle ici à Paris. Donc, je me sens, mais alors, complètement déraciné, c'est le cas de le dire. En plus, si vous voulez, notre famille, bon, certes, entre mes parents, c'était déjà chaud, à Bizerte, mais il y avait les frères et sœurs quand même. Tandis que là, je me retrouve en tête à tête avec ma mère. J'ai pas de copains au début, donc c'est très 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 difficile. Mais le miracle, c'est que je rencontre tout de suite une bande d'allumés par les scouts. On est un petit groupe là de scouts. Ma mère évidemment me met immédiatement dans une école religieuse et chez les scouts. Mais ça a été un cadeau parce que le fait de rencontrer tout de suite mes potes. Et qu'eux m'acceptent. Alors, ils me prennent vraiment pour très différent. Hein, parce que, mais on rit, on a des aventures, on fait des choses, on va dormir à la cathédrale, on se fait enfermer la nuit. Enfin, il y a de l'aventure, quoi. Bon, puis ils sont sympas. D'ailleurs, ça reste mes amis. Donc, petit à petit, je me mets à aimer Rodez. D'abord, c'est très, très beau. Rodez, c'est très austère, mais c'est beau. Il y a des belles pierres, il y a une belle cathédrale, c'est un endroit. Puis la campagne est magnifique. Moi qui ne connaissais pas la campagne, et la montagne, je découvre le ski. Je n'avais pas fait de ski. Jusque-là, il y a deux petites stations près de Rodez, Bramelous et La Guiole. Et donc, non, je découvre des tas de trucs sympas, mais c'est pas pareil, quoi. Donc, je dois à 14 ans remettre en cause tout. Et trouver des aspects positifs à un mode de vie qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Et puis, je dois le faire seul. Parce que ma mère affronte quand même beaucoup de difficultés, puis elle a du tempérament, moi aussi. J'étais déjà très indépendant quand j'étais gosse. Alors là, je vous dis pas, le tête-à-tête, ce que ça donne. La crise d'adolescence parfaite, quoi. D'ailleurs, je rate complètement ma seconde. Hein. J'écoute pas, je m'intéresse pas, je redouble ma seconde. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment, j'ai une année entière d'adaptation et dans laquelle ce qui me déclenche le rebond, ce sont les autres, une fois de plus, mes potes. Voilà. Et parce qu'ils sont déconneurs, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont fraternels, parce qu'on est un peu audacieux, et que par rapport au conformisme ruthénois, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on dénote un peu. Pourtant, c'est des fils de médecins, de trucs, de machins. Hein, bon. Mais il y avait de la folie. Et donc, cette folie me sauve.
Mais alors, vous chantez vos copains, Bertrand Delanoë, qui sont des allumés. Vous dites que ça a été une chance pour vous de redoubler votre seconde. Je ne sais pas si l'institution catholique Sainte-Marie de Rodez pense la même chose, parce qu'il se trouve que vous êtes encore au lycée en mai 68 et que vous faites mettre en grève tous les établissements catholiques de l'Aveyron depuis votre bahut. Vous gardez le souvenir de...
Ah oui, bien sûr. Je ne fais pas ça tout seul. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est mai 68, nous on est en terminale. On est dans une institution très, très, très conformiste, avec un directeur assez, assez classique. Et donc, on renverse la table. Et il se trouve que je suis élu délégué de classe.
Ça avait été une victoire facile ?
Je sais plus, mais j'étais élu. Et j'étais candidat, déjà. Ouais, bon, donc, ça, je vais pas non plus ne pas y voir que j'avais un certain tempérament et que j'aimais bien représenter. Bon. Donc, j'ai été délégué de classe. J'ai pris contact avec les autres établissements cathos de l'Aveyron. Et Dieu sait que dans l'Aveyron, il y en a beaucoup, surtout à l'époque. Et voilà, de contact en contact, toutes les écoles catholiques de l'Aveyron sont mises en grève. Et puis après, j'ai dit, il faut faire qu'on fasse la jonction avec l'école publique. Donc, j'étais voir les copains du lycée. On était tous gauchos. Et puis voilà, on a fait les trucs ensemble. Eux, ils croyaient qu'on voulait renverser le monde. Moi, je voulais juste qu'on soit plus libre, qu'on mette fin à des conformismes, à des ringardises. Voilà. Et puis j'ai manifesté. Oui, moi, j'ai vécu mes 68 avec beaucoup d'enthousiasme. J'aimais beaucoup.
Et vous êtes notamment battu, très concrètement, pour le droit de porter les cheveux longs.
Ah bon ?
Oui.
Oh, c'est probable. Oui, je devais
C'était une de vos revendications ?
Sans doute, oui.
Mais on insiste volontiers dans les témoignages qui existent de votre passage à Rodez sur votre apparence. Il y en a qui évoquent vos chaussures jaunes en croco dont vous ne gardez pas le souvenir, je crois.
Non, j'ai jamais eu de chaussures. D'abord, j'avais pas les moyens d'avoir des chaussures en croco. Non. J'aimais bien déjà la mode, les fringues, ça n'a jamais cessé. Mais je sais pas. Des cheveux longs, oui. Enfin, avoir des pattes d'ef et des trucs comme ça, mais... Non, les chaussures jaunes en croco, ça va pas, tête. Non, ça, j'en suis sûr, en plus. Hein. C'est pas que je veux pas assumer, hein. C'est que c'est sûr que j'en avais pas.
Mais du coup, à partir de témoignages comme celui-là, fût-il apocryphe, on vous colle une image de dandy.
Ouais, j'adorais les fringues, oui, c'est vrai. J'adorais les fringues, puis entre-temps, avant, on avait fait avec les copains, justement, de la patrouille scout, on avait fait un local de patrouille qui, en fait, était une cave... avec des lumières tamisées, et de la musique et tout ça. Et quand on a amené notre curé, l'abbé Ginisti, que j'aime beaucoup, voir notre local de patrouille, il a compris qu'on était en train de partir, quoi. Donc c'était une boîte, en fait, où on allait le jeudi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche, où on dansait, où on flirtait, où bien sûr les filles de Rodez étaient très contentes de venir, et où on faisait scandale, il y avait des papiers dans la presse en disant nos teenagers, machin, etc. Ça passait pour de la dépravation. Des fois, on a un peu picolé, mais c'est jamais allé au-delà. Et en plus, voilà, c'est très joyeux, très sympa, tout le monde voulait en être, tous les jeunes de Rodez voulaient être de la bande de la cave. Donc, inutile de vous dire que le groupe scout, là, il s'est un peu développé, qu'on était nettement plus nombreux. Voilà, on s'est beaucoup amusé, oui.
Alors, vous parlez de musique et de cette boîte de nuit sauvage.
La cave.
On n'a pas évoqué, quand on a parlé de Bizerte ensemble, lors de notre précédente conversation, le fait que vous avez été un petit chanteur des sables.
Chanteur à la croix de bois, oui.
Chanteur à la croix de bois.
La manécanterie des sables, oui. Et très, très beau souvenir, magnifique souvenir.
Et vous avez aussi été un grand ami de Dalida.
Ça, c'est beaucoup plus tard.
Ami de Barbara aussi, voilà. Mais si
non,
on évoque
non,
toutes
non,
les
non,
musiques...
Non. J'ai été ami de Dalida beaucoup plus tard. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai une passion pour Barbara. à nul autre pareil. D'ailleurs, Dalida me disait toujours, oui, tu préfères Barbara. Mais j'ai refusé de rencontrer Barbara. C'est mon amie Denise Glaser. J'aimais beaucoup Denise. C'était une femme formidable. D'ailleurs, j'aimerais bien que le service public reconnaisse tout ce qu'elle a apporté, Denise Glaser. Et Denise, avec qui j'étais très ami, et qui adorait Barbara, elle s'est très liée. Hein. D'ailleurs, il y avait des points communs hein, entre les deux femmes. Elle voulait absolument nous faire rencontrer. Je lui dis, je te l'interdis, si tu fais ça, je te parle plus, parce que je veux pas que tu touches à mon mythe.
Mais dans cette cave,
alors dans cette cave, on n'écoutait pas Barbara.
Quoi, il y a des morceaux
non,
de musique qui sont ceux de cette époque-là.
Les Yéyés, les Rolling Stones. Moi, j'étais un peu éclectique. J'étais Barbara déjà. Puis ça dépend. Non, j'aimais bien certains Yéyés. J'adorais Françoise Hardy, France Gall d'ailleurs avec qui j'étais ami. De toute façon, moi, j'étais aussi très Brel, Brassens, tout ça. Hein. J'étais pas. Et voilà.
Mais alors, individuellement, vous étiez un garçon adorable, Bertrand
non.
Delanoë. Vous étiez.
Je sais pas ce que pensait ma mère.
Hein. Éclectique, mais vous étiez déjà, que ce soit à la cave et puis rapidement après, intéressé aux questions du collectif.
Ouais.
Non
toujours.
Pas pour être monstrueux, mais pour changer la vie, puisque en 72, vous avez 22 ans. Et
attendez,
vous...
à propos de Rodez.
Pas
manque,
si vite.
Il manque deux choses majeures. D'abord Antonin Artaud, car j'ai découvert ce type de littérature, cette poésie, par Rodez. Parce qu'Antonin Artaud a été interné à Rodez. Antonin Artaud, c'est un personnage évidemment extrêmement dérangeant, dont la création est magnifique. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est asocial, et en même temps qui crée des merveilles. Et dans ma vie tout court d'homme et donc de responsable, moi je sépare pas les deux, le fait d'être attentif à ce qui vous dérange et d'aller voir quand même ce que c'est un cadeau du ciel de ne pas avoir de réticence à aller comprendre ce que vous ne comprenez pas. Et donc, surtout quand ça vous ouvre les portes de la beauté, et puis Pierre Soulages, c'est parce que j'étais à Rodez que j'ai eu connaissance du natif de Rodez, vous voyez, dans les années 60, et que je me suis intéressé à l'art contemporain. D'ailleurs, j'ai raconté à Pierre Soulages, qui m'a fait remarquer que j'avais oublié, que sa sœur, qui était une professeure de philosophie, était amie avec ma mère. Et puis maintenant... Il y a le magnifique musée Soulages à Rodez. Et là aussi, il m'est arrivé un truc. Des fois, il y a des cadeaux de la vie. Bon, moi, j'aime beaucoup Pierre Soulages, on se connaît. Hein. Bon. Et puis, je vais à Rodez et à l'improviste, je vais au musée. À l'improviste. Et sur qui je tombe ? Sur Pierre et Colette Soulages. Et on a passé une heure ensemble au tout début. Et les tableaux étaient accrochés, tout ça. C'était magnifique, d'autant que je lui avais raconté avant que j'avais failli le rejeter. Parce que j'adorais l'abbaye de Conques, qui est une des plus belles abbayes romanes qu'il y a en France. J'adorais ce lieu. En plus, le site est exceptionnel. C'est au sommet d'une petite colline, mais on passe par des vallons. La route est exceptionnelle. Et cette abbaye romane... j'avais appris que Soulages, à la demande de Jack Lang d'ailleurs, avait fait des vitraux. Je me dis, comment on peut mettre de l'art contemporain là-dedans? Et donc j'étais très 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 réticent. Et puis j'y suis allé. Et alors je suis tombé en admiration devant l'œuvre de Soulages, d'une sobriété, d'une pureté et d'un respect de l'art roman exceptionnel, tout sur la lumière. Et il avait fait fabriquer un matériau spécial. Un peu comme beaucoup plus tard, Franck Guéry le fera pour la Fondation Buiton, où j'ai un petit rôle. Donc, Rodez, dans la gratitude que j'ai vis-à-vis de Rodez, il y a les copains, il y a la beauté, il y a la cathédrale, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi de m'être éveillé à des choses que peut-être je n'aurais pas connues.
Mais alors, vous lisez Antonin
Artaud. C'est Rodez que j'ai connu.
Vous lisez Antonin Artaud à Rodez, Bertrand Delanoë, mais vous lisez aussi le programme de Mitterrand, Changer la vie. On dit que vous l'avez annoté Très sérieusement, vous avez le souvenir de vos annotations?
Oh là, oui.
Pour améliorer le programme de Mitterrand en 72.
Non, mais avant de rentrer au PS, je me souviens, c'est avec un copain pion dans le lycée technique Monteil de Rodez. On s'est dit tous les deux, bon, allez, il faut y aller maintenant quand même. Hein. Bon, on va pas rester tout le temps à être de gauche sans être actif. Donc, on s'est mis à lire le programme du PS, Changer la vie, et le programme commun. C'était critique quand même, hein. C'était oui, mais comment ils vont faire? Parce que c'est quand même des programmes extrêmement ambitieux et pas toujours chiffrés. Donc il y avait un petit côté quand même. Moi, je veux que si on le dit, on puisse le réaliser. Et donc quand on est allé, mon ami Jean-Claude Pouget et moi, frapper à la section du PS à Rodez. On leur a dit, hein, on n'est pas d'accord avec tout, hein, mais on vient parce qu'il faut, ça y est, c'est maintenant, il y a quelque chose qui démarre et qui est bon, quoi. Ça, c'était Mitterrand après Épinay, le rassemblement des forces progressistes, et je regrette pas.
Alors, vous devenez militant?
Oui.
Au Parti Socialiste. Vous avez évoqué le fait que vous avez une éducation catholique, que votre mère était catholique croyante, pratiquante, et il se trouve que le mot de militant, ça a une importance et un sens catholique très fort. Le militant, c'est celui qui évite les tentations. Quelles tentations il fallait éviter quand on entrait en politique, comme vous, dans l'Aveyron?
J'avais déjà perdu la foi et j'étais déjà plus proche de Scarwal qui dit « je sais résister à tout sauf à la tentation ». Donc c'était plutôt ça, hein, ma culture. J'avais 22 ans. J'avais 22 ans et donc non, c'était mon envie de justice sociale, de changement, parce que n'oubliez pas qu'en 1972, il y avait quand même depuis quelques décennies une droite conservatrice qui dirigeait le pays, c'était classique tout ça. Donc c'était mon besoin de transformation importante, et avec toujours une quête exigeante, intransigeante même, de liberté et de justice. Donc, et ça n'a jamais cessé. Alors après, il y a des moments. Mais liberté et justice, depuis que j'ai un peu de conscience politique et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les deux. Et je veux les deux. C'est-à-dire que je ne veux pas de justice sans liberté. Et c'est pour ça que j'ai toujours été contre tous les régimes totalitaires. Et je le suis toujours. Et même contre toutes les engagements politiques qui peuvent conduire involontairement au totalitarisme. C'est-à-dire que la gauche radicale, avec laquelle j'étais ravi de travailler, parce que moi j'ai conduit des majorités avec des communistes, avec des gens de toutes sortes, j'avais même des proches de Mélenchon, hein, parmi la majorité. Mais à condition qu'on reste dans une logique gestionnaire et transformatrice réelle. Parce que je sais que l'absolu en politique donne le totalitarisme. Et le totalitarisme, ce sont les libertés individuelles qui sont mises en cause. Et donc, je suis de gauche, je suis socialiste, mais ma quête de justice sociale, je ne veux jamais, jamais, jamais qu'elle mette en cause la liberté individuelle. C'est peut-être pour ça que je suis libéral philosophiquement, pas économiquement.
Est-ce qu'on peut dire un mot de votre liberté, Bertrand Delanoë, de jeune homme à Rodez? Vous dites d'une manière un peu sibylline, je vivais ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre sa vie quand on a ses premières aventures avec des filles, mais que vous savez peut-être déjà, vous sentez que vous aimez les hommes?
Ah, je le savais avant, hein, avant d'être à Rodez. Vous savez, l'intuition d'aimer aussi les gens de mon sexe, je l'avais avant même d'arriver à Rodez, une intuition. Et simplement, moi, j'étais à Rodez, il n'y avait pas d'homo, il y en a qui le sont devenus d'ailleurs, surtout ceux qui avaient les plus belles filles. On n'était pas dans le même monde qu'aujourd'hui, hein. Bon, à Rodez, l'homosexualité n'existait pas, même dans les mots, je veux dire, sauf dans les insultes. Bon, donc, comme dirait Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte, c'est dans la belle chanson « Les vieux amants ». Et donc, voilà, moi, il fallait bien que j'étais un débouché à mes désirs. Donc, je sortis avec des filles, c'était très bien, d'ailleurs. Et voilà, puis j'ai mis entre parenthèses, j'ai mis le couvercle sur certains de mes désirs, ou même sur une part de ma personnalité. Bon, voilà, j'ai fait avec. Mais j'étais en même temps un jeune homme qui avait conscience de certains manques. Quand vous parliez de liberté, je crois que j'étais en quête de liberté, mais je n'étais pas totalement ignorant que j'étais loin d'être au bout de ma liberté.
Vous mettez le couvercle sur une part de vos désirs, de votre identité, Bertrand Delanoë, mais c'est que vous laissez s'exprimer aussi l'homme que vous êtes publiquement quand il y a cette fameuse soirée de 1973. Vous êtes encore donc ce jeune surveillant d'Externa et puis vous vous faites remarquer par Maurice Benassayag et Jean-Claude Colliard, envoyés par Mitterrand pour remettre d'aplomb, dit-on, la Fédération de l'Aveyron. Et il y aurait cette fameuse question « Qui est ce garçon ?» à votre propos, parce que vous les subjuguiez ce soir-là. Vous avez le souvenir de cette soirée qui a été décisive ?
Oui, bien sûr. Oui, je m'en souviens très bien. En fait, si vous voulez, c'est un engrenage. Moi, j'étais devenu secrétaire fédéral, je m'occupais notamment de la formation. J'étais venu à un stage à Paris animé par Yvette Roudy, et elle m'avait dit « Il faudrait bien que tu refasses ce stage dans l'Aveyron ». Donc j'ai organisé ce stage, j'ai dû intervenir plusieurs fois, etc. Et Benassayag et Colliard, qui étaient un peu les missi dominici de Mitterrand, pour les repérer, qui pouvaient y avoir comme talent potentiel. Et ils m'ont dit surtout, est-ce que tu voudrais pas t'occuper du courant Mitterrand dans l'Aveyron ? Sauf que le courant Mitterrand était tout petit. Hein, dans l'Aveyron, au moment où ils m'ont posé cette question, il faisait 10%. Et ils m'ont dit, il faudrait que tu prennes ça en main, tout ça. J'ai dit, pourquoi pas ? Et donc, me voilà, moi j'aime bien les conquêtes, donc je suis parti dans toutes les sections socialistes de l'Aveyron pour essayer de convaincre que la motion Mitterrand, c'était la meilleure, pour le congrès de Grenoble en 73. Et on a gagné, et on a gagné avec 70%, donc j'étais content. Cela dit, il y avait quand même une ambiance qui faisait que le mitterrandisme était plus populaire quand même que quelques années, 2 ans avant, hein, parce que 71, c'est Épinay, et c'est là qu'il fait 10% dans l'Aveyron. Mais bon, c'est pas que moi qui ai fait passer de 10 à 70%, mais disons que la jeunesse, l'enthousiasme, la conviction a dû jouer un peu, et donc Benassayag et Colliard étaient très contents, Mitterrand aussi.
Vous évoquez le fait que vous avez été très jeune, secrétaire fédéral, au bout de 6 mois de militantisme au sein du Parti Socialiste, et vous êtes élu une nuit particulière, la nuit du 29 au 30 juin 1973, le soir de cette élection, c'est aussi le soir de la mort de votre père.
Oui, je l'apprends le lendemain matin. C'est-à-dire que c'est une très belle nuit pour moi parce que je viens d'accéder à mes premières responsabilités politiques. Je suis très fier, je suis très content, puis il va se passer plein de choses, je vais faire beaucoup de choses. Bon, puis le lendemain matin, on vient me réveiller en me disant... Et puis alors le mec, hein, brutalement, c'est un surveillant général, il me dit « ton père est mort ». Bon, ah, bon. Donc voilà, oui, ça a été un choc terrible, parce que d'abord, je n'étais pas du tout préparé à la mort, moi, d'un proche. J'avais jamais connu ça. Et mon père n'avait que 62 ans. Et donc, ça a été terrible. En plus, si vous voulez, la concomitance entre les deux, mon père alors, était très rac, hein. Puis il n'aimait pas Mitterrand du tout. Mais il m'avait écrit une somptueuse lettre, la dernière, dans laquelle il me disait, bon, pas qu'il désapprouvait mes idées, Mitterrand, tout ça, mais qu'il ne se posait qu'une seule question, aurait-il assez de force pour m'accompagner ? Parce que je crois qu'il avait senti, lui, que j'avais une ambition et que j'avais envie de jouer un rôle quoi, dans la vie collective. Et cet homme de droite, hyper réac, n'avait qu'une pensée importante, c'était est-ce que je vais avoir assez de force pour le soutenir aussi longtemps que qui voudra quoi. Et j'ai trouvé ça très beau, mais la concomitance entre les deux m'a beaucoup beaucoup déstabilisé. J'ai passé plusieurs mois mal et ne sachant pas si j'allais continuer à être responsable politique. J'ai été très 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 perturbé.
D'autant que, très peu de temps après, Mitterrand, François Mitterrand, vous invite à le rencontrer à Lacé, Bertrand Delanoë. Et du coup, quand vous rencontrez Mitterrand, il y a une bataille entre ce que vous projetez sur lui et sur ce qu'a pu dire votre père de Mitterrand. Je crois qu'il était considéré d'abord comme un menteur au sein de la famille Delanoë.
C'est pas ce que mon père pensait de Mitterrand qui m'a fait rater ce premier rendez-vous, mais Mitterrand apparemment m'en a pas voulu. Parce que, en fait, si vous voulez, après la mort de mon père, c'est donc le 30 juin. Et je vais passer l'été à Biarritz, auprès de la sœur de mon père, que j'aime vraiment beaucoup, qui est décédée maintenant, mais avec qui j'ai une très très belle relation d'affection. Et au courant du mois de juillet, Jean-Paul Salvan, qui est un architecte de Rodez, socialiste, ami de la famille Mitterrand, me dit, écoute, j'ai dit au président que tu étais dans le coin, donc il m'a dit, ah ben, amenez-le-moi. Bon, toujours Mitterrand, perdait jamais son temps, hein, il voulait toujours savoir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de bon à prendre partout, il avait raison d'ailleurs. Et il n'a jamais cessé d'être comme ça. Et donc, me voilà parti avec Jean-Paul Salvan à Latch, et on va se balader avec Mitterrand. Mitterrand et moi, hein, d'ailleurs, seulement. Parce qu'il voulait tester un peu. Puis alors, il n'arrêtait pas de me poser des questions. Et moi, c'était pas du tout ce que mon père pensait de Mitterrand qui me bloquait. C'était ma peine. Moi, j'étais détruit par la mort de mon père. J'admirais énormément Mitterrand, et j'ai pas voulu lui dire que j'ai eu tort, d'ailleurs, que je venais de perdre mon père. Donc, j'ai été très silencieux. C'est-à-dire que lui qui croyait voir un jeune dynamique, qu'on lui avait présenté peut-être comme un peu brillant, etc., il voyait un personnage éteint. Alors, il l'a peut-être mis sur le compte du fait qu'il m'impressionnait, mais c'était pas ça le principal. Le principal, c'est que j'étais détruit, mais que je voulais pas le dire, j'étais pudique, donc j'allais pas lui raconter la première fois que je le voyais, que je venais de perdre mon père. Bon, j'aurais dû parce que Mitterrand est un homme très sensible. Et donc je pense qu'au contraire, notre première rencontre aurait pu être plus intéressante. Bon, cela dit, c'est pas grave, parce qu'on s'est revus après, et voilà, on s'est compris. C'est parfois affronté, mais on s'est compris. Donc, mais ce premier rendez-vous, moi, je le considère comme raté. Lui, je sais pas ce qu'il en a pensé, je lui ai jamais posé la question, mais moi, je l'ai considéré comme raté. Et puis surtout, je me suis dit, t'es quand même un con, quoi. Tu rencontres enfin l'homme politique, t'as 23 ans, que t'admires le plus, t'aimes la politique, t'aimes bien être responsable. Et tu trouverais rien de mieux que de te taire tout le temps et d'être éteint. Bon, donc c'est pas bien. Mais tant pis, hein, j'ai pas tout réussi, je le savais.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bertrand Delanoë. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.